Les serviteurs fidèles. Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle dans l'emploi de petites choses. Je te préposerai à de plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. Cette sentence, comme le reste de la parabole, reçoit toute sa clarté de sa signification allégorique. Jésus nous fait connaître le jugement que Dieu porte sur la vie des hommes qui auront fidèlement collaboré avec lui. Quoique les deux serviteurs aient eu en partage des dons inégaux, ayant accompli le même effort total, ils sont également rémunérés. Leur vie n'a comporté que des tâches ordinaires, mais le maître sait toute la grandeur de la fidélité et ce qu'elle contient d'amour. Parce qu'ils ont rempli grandement leurs petits devoirs quotidiens, leur vie humble et laborieuse s'est déroulée en un progrès continu. Le Seigneur va donner à leur vie son achèvement définitif. Dieu voit plus grand que nous. Il voit tout à sa taille. Nos modestes travaux, nos pauvres vertus, nos moindres actes de bonté, jusqu'au verre d'eau fraîche tendu aux passants altérés. Lorsque l'amour de Dieu inspire ces petits actes quotidiens, ils n'ont plus de commune mesure avec un monde éphémère. Cette attention leur vaut un prix infini. Nos journées si courtes, et qui peuvent être si pleines, recèlent dans les plis de leurs minutes une invisible éternité. Serviteur bon et fidèle, tu n'as pas boudé à l'ouvrage, tu as supporté la malice de chaque jour, tu as accepté ta part quotidienne de soleil et de froid, ta vie s'épanouira dans la joie de ton Seigneur. Vie brève ou longue, qu'importe, ces mots n'ont pas de sens en face de la seule réalité qui est de les insérer dans l'œuvre divine. Mozart, en ses 30 ans de pauvreté, n'a-t-il pas donné aux hommes de quoi chanter pendant des siècles? À 19 ans, notre petite Jeanne expire sur un bûcher. Une année de plus l'aurait-elle rendue plus grande? La vraie vie n'est pas affaire de quantité et de durée. Elle vaut ce que valent notre prière de chaque jour, notre charité de chaque jour, notre travail de chaque jour. Le travail ne nous sanctifie pas automatiquement. Mais l'emploi laborieux de nos journées, en disciplinant notre activité, ordonne notre vie à sa perfection. C'est ce qui ressort des fins spéciales attachées par Dieu au travail de l'homme. En premier lieu, le travail nous permet de glorifier Dieu. Le travailleur se met nécessairement sous la dépendance du Créateur. L'accomplissement de sa tâche le soumet aux lois divines. Le cultivateur règle ses travaux sous le rythme des saisons. Le maçon ne peut disposer une pierre sur l'autre s'il néglige le fil à plomb. Les investigations du savant, dans son laboratoire, comme dans ses calculs, sont un dialogue ininterrompu avec le législateur de l'univers. À la forge ou dans les champs, devant son écritoire ou dans les occupations du foyer, qu'il le sache ou non, l'homme ne réussit un travail que parce qu'il obéit aux lois divines. Mais s'il le sait, si une pensée d'amour traverse son obéissance, son labeur aussitôt se transfigure et devient un acte religieux. Par le travail attendri, l'âme complète en elle-même l'image de Dieu et façonne le dehors à son image. En travaillant, en effet, l'homme accentue sa ressemblance avec Dieu. Comme lui, il conçoit, il exécute, et son œuvre, bien faite, elle aussi met de la beauté dans le monde. De plus, et le pape Léon XIII en fait la remarque dans la portion de nature corporelle qu'il cultive, l'homme laisse comme une certaine empreinte de sa personne. Ces ouvrages ont façonné l'artisan ou l'artiste, cette découverte du savant, sont le produit de leur pensée, mais c'est par notre pensée que nous ressemblons à Dieu. Ainsi, même si le travailleur ne le sait pas, c'est Dieu qui guide sa main. Le travail de l'homme transforme le monde à l'image de Dieu. Quand l'homme sait cela, ses œuvres sont autant d'hommages rendus au Créateur. Alors, le vieux dicton des Français, dont on avait abusé pour les détourner d'adorer Dieu, retrouve sa vérité originelle. Travailler ainsi, c'est réellement prier. C'est aussi nous améliorer, car toute loi divine a pour effet d'assurer le développement de notre vie physique ou morale. Hélas, on ne saurait attribuer ce résultat aux défigurations d'une organisation vicieuse à infliger au labeur humain. C'est aussi nous améliorer, car toute loi divine a pour effet d'assurer le développement de notre vie physique ou morale. Hélas, on ne saurait attribuer ce résultat aux défigurations qu'une organisation vicieuse a infligées au labeur humain. Celui-ci est, en certains cas, suivant la même réflexion de Pie XI, un instrument de dépravation. La matière inerte sort ennoblie de l'atelier, tandis que les hommes s'y corrompent et s'y dégradent. Aussi bien est-ce le régime actuel du travail qui tombe sous cette condamnation, non pas le travail en lui-même. Le travailleur, parce qu'il coopère avec Dieu, peut acquérir, dans l'exercice de son œuvre, les qualités que cette collaboration requiert. Si l'oisiveté est la mère de tous les vices, le travail est au moins le père nourricier de beaucoup de vertus. Il confère à l'âme un juste équilibre en exigeant à la fois l'énergie et la patience. Au travail, on ne parle plus, on agit. Il faut être maître de soi. L'œuvre entreprise réclame de la prudence. En cours d'exécution, elle éveille l'initiative. Il faut qu'elle soit finie et durable, et ceci développe la loyauté et l'honnêteté chez les hommes de toutes les professions. Tel ouvrage comporte des dangers. Le travailleur est courageux. C'est le métier qui veut cela, dit aussi bien le couvreur sur son toit que le radiologiste à qui l'on ampute un doigt. L'ambition, conjointe à la paresse, auront beau demander à l'argent honneur et profit. La conscience humaine ne reconnaît à personne d'autre valeur que celle qui lui est conférée par son travail. Du savant ou de l'ouvrier qualifié, on dit également qu'il est fort dans sa science, dans son art. Dans le sentiment de sa force, l'homme apprend sa grandeur. Mais pour lui épargner les souffrances de l'orgueil, Dieu a décidé que la nature ne serait jamais entièrement domptée. Il y a toujours une limite où l'homme de métier est obligé d'avouer « je ne sais pas » et « je ne puis plus ». Le savoir de l'un, l'habileté de l'autre les invite à regarder au ciel. Le travail n'est qu'un chemin vers notre destinée surnaturelle. Ministerium tum imple, recommandé saint Paul à Timothée. Ce qu'en français, nous traduisons indifféremment « remplis ton ministère » ou « fais bien ton métier ». Au travail, l'homme est toujours un ministre de Dieu. Son œuvre est un service dont Dieu le charge pour subvenir au bien de la société. Sous ce troisième aspect, la loi du travail rejoint le commandement de l'amour fraternel. Il est encore superflu d'indiquer que seule la conception chrétienne du travail autorise cette assimilation. Quand le respect de Dieu et de ses desseins ne préside plus aux négociations des hommes, l'organisation du travail est, au contraire, une source d'injustice et de violence, et la gestion des entreprises recourt aux procédés déloyaux d'une concurrence effrénée. Dieu, en nous obligeant tous à travailler, a voulu créer un lien invisible entre tous les membres de la famille humaine. Tous avaient besoin les uns des autres, se prêtent un mutuel concours et par le fait même entretiennent des relations d'estime et d'amitié. Chacun, à sa place, se désapproprie de son œuvre, au profit de tous, et participe à l'œuvre civilisatrice de l'humanité. Cependant, la doctrine chrétienne attribue au travail une dernière finalité qui résume et surélève les précédents. Si nous n'avons pas encore mentionné l'élément de peine inhérent à nos labeurs, c'est qu'il n'est pas bien compris que par rapport à l'efficacité rédemptrice que Dieu attache à nos efforts laborieux. Le travail, quoi qu'on en ait dit, n'est pas considéré dans le dogme chrétien comme un châtiment. Avant d'avoir péché, Adam avait reçu la mission de travailler. Ce privilège le distinguait des autres créatures et apparentait son activité à celle de Dieu. Relisez la sentence qui suivit sa faute. La malédiction ne porte pas sur le travail de l'homme, mais sur le sol, sur la nature créée, qui, à l'imitation de l'homme, pécheur, lui sera désormais indifférente et indocile. Dieu n'a pas davantage maudit la maternité de la femme, quoiqu'il y ait joint la souffrance. Dans le travail de la mère, comme dans le labeur de l'homme, penché sur une nature rebelle, il y a une création qui, pour être plus coûteuse, n'a que gagné en noblesse. Celle-ci est reconquise au prix d'une peine. En cela seulement réside le châtiment. L'homme aurait été bien plus sévèrement puni s'il avait été condamné à l'oisiveté, si ses mains ne lui avaient plus servi qu'à prendre, ni sa pensée était retombée au niveau de l'instinct. Dans ce cas, il eût été frappé d'une déchéance irrémédiable. Le travail reste notre grandeur. La pénalité qui l'accompagne lui est extérieure. Elle est par suite plus ou moins grave. Elle est constituée par trois facteurs, la contrainte, la fatigue et l'échec. Le travail nous est imposé par la nécessité de vivre. Et, nous l'avons remarqué, il ne nous est pas possible à tous de choisir notre tâche. S'il existe des travaux faciles et agréables, d'autres sont durs ou humiliants. Et en tout cas, la continuité et la répétition provoquent à la longue une tension de la pensée et de l'organisme. La courbature des membres, comme la lassitude de l'esprit, sont notre œuvre. Enfin, tous nos efforts ne sont pas couronnés de succès. L'homme doit venir à bout de son ignorance et de la résistance des choses. Il est condamné à patienter, à tâtonner, à recommencer. Toutefois, la sueur qui mouille notre front n'a pas flétri la couronne, dont Dieu le saignit. Ce qu'il y a de pénible dans le travail affecte la partie sensible ou volontaire de notre être, celle que le péché a diminuée. Là, ainsi, s'opère le rachat, grâce à l'effort qui, plus ou moins douloureusement, nous ramène dans l'obéissance. Mais une fois rentrés dans la loi, nous respirons dans une atmosphère d'amour. Bien faire rend le travail joyeux. L'effort aimé est moins lourd. Quand l'homme a bien travaillé, il chante. Et puis, et surtout, Jésus a donné le rassemblement de tous les laborieux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, omnes qui laboratis. Membre de son corps mystique, nous associons notre peine à ses souffrances. Et si nous ne pouvons parler qu'improprement d'achever la création matérielle, du moins est-ce en toute rigueur que le Christ nous appelle à achever son sacrifice rédempteur. Dès lors, la plus obscure besogne, le métier le plus ingrat, les angoisses de nos créations, les fatigues de nos productions, nos efforts apparemment stériles et les peines que nous disions perdues, tout ce grand labeur du peuple chrétien fait partie du sacrifice de Jésus-Christ. Ce travail rédempteur, nous pouvons l'aimer et en être fiers, car il s'ajoute à l'amour du Christ pour son Père et pour les hommes. Notre travail honore Dieu, il nous sanctifie. Il ne sert pas seulement aux besoins de la cité terrestre, il bâtit la cité éternelle. Il est en vérité une collaboration avec Dieu. Le livre des Actes rapporte que, pendant le séjour de saint Paul à Éphèse, Dieu opérait par ses mains des prodiges qui n'étaient pas ordinaires. Les tabliers de l'apôtre tisserand et les linges avec lesquels il essuyait la sueur de son visage, par leur simple contact, guérissaient les malades et chassaient les mauvais esprits. Le travail compris et accompli, comme Dieu le veut, n'opérerait pas de moindres prodiges dans la société contemporaine. Il la sauverait des énergumènes qui l'entraînent à la ruine. Il ajusterait à un sage équilibre les forces de chacun au bien de tous. N'est-ce pas comme les souverains pontifes nous ont pressé le devoir des chrétiens de s'inspirer des principes de la morale évangélique pour étudier et résoudre les problèmes économiques que pose actuellement le régime de la rémunération du travail? Les principes vous apparaîtront d'autant plus certains que vous en ferez votre règle de conduite personnelle. Les foules qui exhortaient Jésus s'écriaient « Il a bien fait toute chose ». Dans ces circonstances présentes, il faut qu'on puisse décerner cet éloge à tous les chrétiens. Que jamais on ne dénonce l'oisiveté dans vos rangs. Ne faites pas faire par d'autres votre métier d'homme. Vous le ferez vous-même. Vous remplirez toutes vos tâches, sans exception, car vous devez à Dieu votre activité tout entière. Vous ferez bien tout ce que Dieu vous donne à faire. Certes, aucune de vos œuvres ne présentera la perfection que vous rêviez pour elle. Du moins, faut-il que le jour où vous quitterez cette terre, vous ayez le droit de redire la parole de Jésus. « Père, j'ai achevé l'œuvre que vous m'avez donné de faire. Je n'ai pas gaspillé mes facultés, je n'ai pas enfoui mon talent, j'ai accompli de mon mieux tout le peu que j'ai pu. » C'est sur ce peu que Dieu jugera votre fidélité. Puisse-t-il proclamer, « Chrétien, que vous avez été de bons ouvriers, les meilleurs serviteurs de la société, dignes de la joie de notre Maître, parce que vous aurez mené à bien l'œuvre de votre vie. » Le réalisme chrétien. Dès les débuts du christianisme, saint Paul, qui évangélise les païens, se fait l'interprète de la morale de Jésus en proscrivant l'esclavage. « Il n'y a plus de distinction, écrit-il, entre l'esclavage et l'homme libre. L'un et l'autre sont égaux dans le Christ. Le principe est posé. Logiquement, l'Église ne veut-elle pas s'insurger aussitôt contre une institution périmée qui donnait lieu, dans la société romaine, aux plus lamentables abus? Du moins, lorsqu'au IVe siècle, les empereurs furent chrétiens, l'Église ne devait-elle pas user de son influence pour obtenir la suppression d'une institution qui aliénait les droits de la personne humaine? Or, l'Église tint compte des réalités. Abolir l'esclavage d'un trait de plume ou encourager les esclaves à la révolte aurait, étant donné la structure sociale, déterminé une catastrophe qui eût anéanti le monde antique. C'est pourquoi l'Église toléra pendant plusieurs siècles un désaccord provisoire entre les lois civiles et les principes chrétiens. Cependant, il s'en faut qu'elle soit demeurée inactive. Réaliste, elle fit réaliser peu à peu les réformes contenues dans sa doctrine. Saint Paul n'ordonne pas l'élargissement immédiat des esclaves, mais il commande aux maîtres de les traiter avec douceur. Ne pesez pas sur eux par la terreur, mais souvenez-vous qu'ils ont le même Dieu que vous, et que ce Dieu vous jugera les uns et les autres, sans regarder à la condition des personnes. Il demande à Philémon de recevoir Onésime, son esclave fugitif, que l'apôtre a sur les entrefaites converties au Christ, non plus comme un esclave, mais comme un frère chéri. Dans les assemblées liturgiques, la matrone romaine et son esclave participaient l'une à côté de l'autre au repas eucharistique. Bientôt, des esclaves sont admis au sacerdoce et à l'épiscopat. Peu à peu, les maîtres chrétiens se font une loi d'affranchir leurs esclaves. Au Ve siècle, ce sont les esclaves qui refusent de quitter les meilleurs maîtres. Parallèlement, l'Église relève la dignité du travail manuel. Les moines se font un honneur d'accomplir les besognes qui avaient été jusqu'alors le lot de la servitude. Enfin, le servage remplace l'esclavage. Ce qui marque un progrès, puisque le serf attaché au sol ne dépend plus d'un autre homme. Hélas, les nouvelles sociétés barbares eurent vite infligé au serf un sort douloureusement injuste. Avec la même patience, l'Église s'applique à l'adoucir et en même temps à humaniser des mœurs contraires à l'esprit chrétien. Devant ce problème de la liberté humaine, le réalisme de l'Église a consisté à supporter d'abord, pour éviter un plus grand mal, un état de choses antichrétien, tout en s'efforçant de le bannir successivement des cœurs, puis des mœurs, et finalement des lois. N'y a-t-il pas là un exemple à monnayer, dans les circonstances où, sur une plus petite échelle, les chrétiens se trouvent momentanément contraints de subir des institutions qui sont en contradiction avec les principes de l'Évangile et les lois de l'Église, tout en s'employant activement à les amender jusqu'au jour où ils peuvent leur substituer des institutions plus conformes à la justice. On conviendra donc que pour corriger des lois injustes, pour améliorer des organismes imparfaits, les catholiques ne doivent pas faire figure d'émigrés de l'intérieur en se désintéressant systématiquement des affaires de la cité. Cependant, puisque votre présence est souhaitable, puisque votre participation à une action commune qui ne se déroule pas dans un cadre chrétien est légitime, à quelles conditions serez-vous pleinement réaliste tout en demeurant loyalement chrétien? Essayons de dégager brièvement des observations précédentes quelques règles pratiques. Et pour cela, ouvrons l'Évangile. Aux apôtres, et pour l'exercice de leur apostolat, notre Seigneur, recourant à des comparaisons qui plaisaient à l'imagination orientale, disait « Je vous envoie comme des brebis qui doivent vivre sous la menace continuelle des loups, c'est-à-dire dans la mêlée des parties en but aux discussions, à l'intrigue, à la violence aussi. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Quelle leçon de réalisme dans le rapprochement de ces deux attitudes. La sagesse, la vigilance, l'habileté dont le serpent est le symbole, à elle seule, inclinerait plutôt à la réserve, ou à l'inaction, ou à l'opportunisme. Inversement, elle seule, la simplicité, la candeur, la confiance que représente la colombe, porterait le missionnaire à des démarches inconsidérées ou dangereuses. Le prophète Osée ne reproche-t-il pas à la colombe d'être étourdie et facile à tromper ? Soyez simple, recommande le maître, c'est-à-dire sans duplicité. Ne changez pas votre caractère, restez vous-même intégralement fidèle à l'Évangile. Soyez confiant, ne craignez pas à tout propos d'être égorgé. Il n'y a pas que des loups de par le monde. Croire au bien qui se cache dans le cœur des hommes est une force. Mais à un cœur généreux, joignez une tête solide. Soyez toujours, par bonté et dans l'intérêt de la vérité, circonspect, mesuré, patient. Ce n'est pas opportunisme que d'agir en temps opportun. Simple, vous parlerez sans feinte. Vous direz oui si c'est oui, non si c'est non. Prudent, vous vous tairez plutôt que de parler à contre-temps. Cette ligne de conduite, tracée par le Sauveur en vue de l'action apostolique, ne convient-elle pas parfaitement à l'action civique ? Votre qualité de chrétien vous suscitera des opposants. Plus d'une fois, vous serez aussi désarmé que la brebis face au loup, quand vos adversaires emploieront à vous évincer ou pour restreindre votre influence des procédés injustes dont vous n'avez pas le droit de vous servir à leur égard. Soyez donc prudent. L'adjectif latin prudens est une contraction de providence. L'homme prudent tient les yeux ouverts devant lui. Il pèse les conséquences de ses actes. Il voit de loin, et quand il est chrétien, il voit de haut, et par conséquent, plus loin. La prudence vous placera à égale distance de la timidité et de la témérité. Vous prendrez en considération toutes les réalités. Le milieu social dans lequel vous travaillez, les événements historiques, généraux ou locaux, qu'il serait vain de prétendre abolir, les mentalités diverses de vos collaborateurs. Limité par ces dépendances, vous discernerez sagement les possibilités variables d'appliquer les principes chrétiens. Tantôt vous le pourrez au maximum, tantôt vous devrez vous contenter du minimum. Parfois vous réaliserez immédiatement une réforme heureuse, d'autres fois il faudra temporiser et commencer par composer le climat propice à l'amélioration désirable. Pour que notre prévoyance ne soit pas seulement l'art des habiletés et des combinaisons, notre Seigneur veut que nous ajoutions à la prudence la simplicité. Être simple, au sens évangélique du mot, nous interdit toutes sortes de duplicités et nous oblige à être vrai, juste et bon. Ces trois qualités vous permettront de résoudre au mieux tous les cas concrets que vous rencontrerez. Vous serez simple, c'est-à-dire en premier lieu, vous ne dédoublerez jamais votre personnalité. Aucune dissociation n'est acceptable entre l'homme public et le chrétien. En toutes circonstances, vous penserez, vous jugerez, vous parlerez selon la vérité. Seriez-vous réaliste si vous négligiez cette première réalité, la réalité première, votre christianisme ? Sans doute, cette attitude pourra éventuellement vous acculer à un non possumus. Mais la plupart du temps, l'inspiration nettement chrétienne de vos interventions aura pour résultat d'éclairer vos collaborateurs, de corriger un abus, de réaliser un progrès. Surtout si vous intervenez d'une manière évangélique, où l'on ne relèvera point le parti pris ni l'esprit de parti, mais seulement le souci de la vérité et de la justice. Le second aspect de la simplicité est la droiture dans nos relations avec autrui. Nous serons les plus réalistes des hommes et les meilleurs réalisateurs si nous prenons au sérieux la règle d'or formulée par Jésus. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. le jour où cette loi serait inscrite dans toutes les mairies, devant le pupitre de tous les fonctionnaires, sur le comptoir de tous les marchands, nous ne serions pas loin du royaume de Dieu. En attendant, inscrivez-la dans vos cœurs et mettez-la en pratique dans tous les domaines de votre activité, aussi bien dans votre foyer. Est-il plus puissant levier pour une action féconde? Ce que vous attendez d'autrui, avant de l'avoir reçu, même si vous ne devez pas le recevoir, donnez-le-lui. Les trop prudents murmureront qu'agir ainsi, c'est en effet être simple, mais au sens naïf. Non, c'est être juste, car le commandement du Sauveur nous invite à nous mettre à la place des autres, ce qui est la seule façon de ne pas les léser, ni les blesser, ni les suspecter sans motif, ni les accuser sans preuve. C'est aussi la seule façon de découvrir leur vraie nécessité, de choisir les moyens les mieux appropriés de leur venir en aide, de mesurer nos exigences à leur égard. Agir envers les autres comme nous voudrions qu'on agisse envers nous, si nous étions à leur place, c'est la condition pour être juste, absolument juste, car c'est entrer déjà dans la charité qui complète la justice. N'est-ce pas le précepte divin de la charité qui a éveillé en vous le besoin de vous dévouer au bien de la cité? Tenez-vous énergiquement à cette bonté très simple de faire le bien. Elle sera la plus sage conseillère dans vos hésitations. Lorsque les tracasseries, les malveillances, les bâtons dans les roues vous porterez au découragement, songez à vos possibilités de rendre service, d'empêcher un mal, de faire aboutir un bien. Les motifs qui justifieraient une démission céderont à la pensée de votre concours, même passager, procurera un peu de bien à vos frères. Entre personnes associées à une même tâche, les conflits de principe surgissent souvent par suite d'un défaut d'amitié. Mais si vous avez su par votre exemple créer un esprit amical, tendu vers le service fraternel à rendre, les divergences d'idées s'aplaniront plus simplement, plus aisément. Vous arriverait-il de commettre une imprudence? Si vous avez obéi à la charité, votre erreur sera toujours excusable. J'ajouterai qu'elle sera toujours réparée par la main invisible de la Providence. Après tout, nous sommes tous faillibles et l'on ne saurait prévoir toutes les conséquences d'un acte même réfléchi. Vous vous êtes trompé par excès de bonté? Le Seigneur vous donnera votre revanche en tirant un bien inattendu du mal que vous n'ayez pas su prévoir. L'expérience nous apprend bien vite qu'une autre pensée que la nôtre conduit des événements. La simplicité du cœur s'oppose aux retours égoïstes, aux reprises dissimulées de l'intérêt privé ou des intérêts de classe qui masquent infailliblement le bien commun et qui compromettraient fatalement votre action. Ne pas se rechercher soi-même, mépriser les glorioles du prestige, renoncer à tout avantage personnel, voilà qui confère sur les faits à juger et sur les décisions à prendre une clairvoyance et une sagesse qui sont rarement en défaut. Enfin, veillons à ne pas apporter au service du bien commun des préoccupations partisanes. Ce serait introduire la contradiction dans l'action, le ver dans le fruit. Les orientations politiques d'un grand pays sont sujettes à des brusques revirements, à des alternatives de flux et de reflux que le chrétien doit dominer s'il veut sauvegarder la vérité et la charité. L'histoire doit nous rappeler que le catholicisme a connu chez nous des succès extérieurs qu'un proche lendemain lui a fait payer chèrement. Car si d'un moindre mal il peut sortir de plus grands biens, il n'est pas moins vrai qu'un moindre bien peut engendrer de très grands maux. Chrétien, conservons jalousement notre indépendance. Restons nous-mêmes, simples et prudents, au milieu des loups. Pour abattre le géant Goliath, David n'avait que faire de l'armure du roi Saül. Dieu avait mis une force plus grande dans la fronde du jeune berger. Contre les forces du mal, notre foi, notre prière, notre désintéressement, notre charité, nos sacrifices sont des armées plus puissantes que tous les appuis humains qu'on pourrait nous offrir. Que voulez-vous en somme, même dans l'exercice de l'action civique, sinon que le règne de Dieu arrive? Or, nous dit Jésus, le règne de Dieu se propage sans éclat. Il n'arrive pas de manière à frapper les regards. Ne rêvons pas de triomphes éclatants. Jésus n'en a pas voulu pour lui. L'Évangile nous le montre. Refusons les prodiges, les coups de théâtre, les dominations terrestres. Il a choisi la voie commune, l'obéissance au Père des cieux, le travail caché, la bonté que rien ne lasse, la contradiction, la croix. Tels sont aussi nos moyens d'action, ceux qu'aucune puissance temporelle ne peut nous ôter ou contre lesquels on n'a rien à nous donner en échange. Jésus a passé en faisant le bien, disait saint Pierre. N'est-ce pas la meilleure définition du réalisme chrétien ? Le réalisme du chrétien, c'est une religion aimable, une douce sérénité, une charité discrète, un dévouement infatigable, une vertu modeste, tranquille et courageuse. Que pouvez-vous faire pour servir la cité terrestre, pour l'améliorer, pour la sauver, pour l'engager enfin sur la route de la cité céleste, comme votre maître, partout où la volonté de Dieu vous conduit, passez en faisant le bien. Chaque